Bonjour à tous. 12h55, Fabien Benoît, notre invité, a enquêté sur l'idéologie politique de la Silicon Valley entre capitalisme et hyper-individualisme. Quel est ce nouvel ordre du monde que ces entreprises et leurs chefs, avec leur capital technologique, entendent installer? Vous le saurez en écoutant la Grande Table des Idées. Mais d'abord, Jacques Gamblin et Isabelle Autissier face à la mer. Portés par leur imagination, ils ont en commun de savoir prendre le large et d'affronter les vents tournants de l'écriture. Elle, navigatrice, présidente de la Fondation WWF France, revient avec un roman. Oublié Clara chez Stock, lui, comédien et auteur de théâtre, a publié ses correspondances avec Thomas Coville aux Équateurs, où il parle à un homme qui ne tient pas en place. Gamblin, Autissier, la rencontre à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Attablés ce midi, ils se retrouveront à Saint-Malo du 8 au 10 juin pour le festival Étonnant Voyageur. Bonjour Jacques Gamblin.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Tandis que Jacques Gamblin termine ses échauffements, étirements autour de cette grande table, vous écoutiez attentivement les titres de Thomas Cluzel qu'il développera dans son journal dans une vingtaine de minutes. Un bain de médicaments, voilà ce qui nous attend. Il y a quand même au-delà de tout ça une poétique qui reste de la mer. Maintenant que vous êtes aussi engagé aux côtés de WWF, vous arrivez encore à voir dans la mer ce qu'elle a de plus inspirant, de plus profond.
Heureusement que la mer reste belle, heureusement qu'il y reste quelques oiseaux, quelques mammifères marins, pour je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas encore aujourd'hui. Et ça reste ce sentiment, finalement, au contact de la nature, de très grande humanité, enfin à la fois de notre insignifiance, mais en même temps de notre appartenance à cette nature.
Et vous, Jacques Gamblin, quand vous regardez la mer, vous vous noyez dedans? C'est désespérant de se dire que tout est aussi grand, si large, si infini, ou ça reste une invitation à voyage?
Ah non, c'est pas désespérant. Ce qui est infini, ça ne me désespère pas du tout. Au contraire, c'est les murs, moi, qui me désespèrent. C'est pas le grand large, c'est pas l'infini.
Invitation à voyage littéraire?
Oui, et puis bon, c'est comme on a besoin de boire et de manger. Moi, j'ai besoin de la mer. J'y suis né au bord. C'est indispensable. Je suis très très vite, me sens très vite échoué si j'en suis loin. C'est comme ça, comme on est né quelque part. Voilà, il y a des gens, ils sont nés en Picardie, ils ont besoin de ces grands espaces ou dans la Beauce. C'est comme ça. On peut pas. Enfin, on est picousé dès le départ. Donc, je vivrai toujours, même si je suis en ville, quelque part au rythme de la marée et du vent qui parle.
Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Votre livre de correspondance est sorti aux éditions des Équateurs à l'automne dernier. Une correspondance avec le navigateur Thomas Coville, que vous avez aussi mise en scène et interprétée, seul en scène à l'automne au Théâtre du Rond-Point et cet hiver au 104 à Paris. Correspondance entamée en janvier 2014. Pour la quatrième fois, Coville tente de battre le record du Tour du Monde à la voile en solitaire et il échoue. Cet échange s'arrête quand il atteindra enfin son but en décembre 2016, voilà pour ce tour du monde qu'il a enfin réussi à réaliser en 49 jours. Extrait du spectacle.
Les commissions de Sainte-Hélène ont été exécrables. Une énorme barrière anticyclonique, donc sans vent. Avec un bateau à voile, c'est pas facile.
19 janvier. Salut Thomas. On contourne Madère. 1er février. Cher Thomas, j'ai eu ton petit SMS. Je suis heureux que tu me reçoives. C'est tellement, tellement étrange toujours d'écrire des mots qui ont toutes les chances de s'évaporer entre ici et toi.
Jamais personne ne m'a écrit comme cela. Jamais personne n'a compris sans que je lui explique.
On ne peut pas raconter un voyage. C'est une autre solitude, celle de ne pouvoir raconter. Eh bien, cette fausse conversation est elle aussi un racontable. Nous fabriquons du secret.
Alors, il est parti, il a pris le large, et vous, vous êtes resté à quai. Est-ce que par l'écriture, Jacques Gamblin, vous vous êtes rapproché de lui? Est-ce que vous avez même le sentiment un peu d'avoir vécu cette aventure par procuration? Et aussi un peu par la seule force de votre imagination, parce qu'au premier voyage, pendant un mois, il ne vous répond pas, vous n'êtes même pas sûr qu'il vous reçoit, pas sûr de ne pas parler dans le vide.
Oui, c'est une entreprise un peu un peu risqué. Quand Thomas m'offre son adresse mail, je ne sais pas très bien si elle va me servir. D'abord, c'est une grande confiance qu'il me fait, puisque on est 5 seulement à avoir cette adresse mail. Le sponsor, la famille, bien sûr, les routeurs. Et c'est pas du tout à ce moment-là ce que je vais faire de cette adresse mail, mais un premier jour, je lui souhaite un bon voyage, et puis un deuxième jour aussi, et puis au fil des jours, je me dis, tiens, au 3e ou 4e jour, je me dis, tiens, si je lui écrivais tous les jours, c'est devenu comme une nécessité. Et puis les jours passent et je n'ai que de très petits indices qu'il me reçoit, ou par une vacation radio ou vidéo, enfin, etc. Mais le lendemain de cet indice, j'en sais pas plus. Donc c'est une écriture au départ qui en effet s'adresse un peu, qui est une bouteille à la mer pour le coup. Et mais je continue, je non pas comme un acharné, mais comme juste un accompagnateur que j'essaie d'être, je sais pas, que j'essaie d'être, qui essaie d'être chaleureux, enfin. Je ne vis pas, non, par procuration, mais je sais pas, je ressens des choses, et il se trouve que ces choses que je ressens, c'est ce qu'il m'écrit à un moment donné, au bout de, je sais plus, plus de 20 jours, qu'il n'a pas eu besoin, il n'a pas besoin d'expliquer, il n'a pas besoin de... Il sent à travers ce que je lui écris que je suis avec lui. Même il me dit, me parler à voix haute, me demander même parfois conseil, ce que je serais bien incapable de lui donner. Mais enfin, c'est une présence peu à peu, et je réalise que j'ai bien fait. J'en étais pas sûr, et jusqu'au bout, j'en étais pas sûr. Et puis ensuite arrive le moment de l'abandon, et là, l'entreprise devient extrêmement délicate, parce que en effet, qu'est-ce qu'on dit, de quelle façon on peut aider, enfin, avec ma petite écriture, un homme qui abandonne, un ami qui abandonne. Et c'est vrai que cet abandon a produit chez lui un abandon de l'écriture aussi. C'est-à-dire en réalité, deux mails qu'il m'envoie sont très longs et très chargés d'intimité. Et je pense qu'en effet, si j'avais écrit comme ça tous les jours à un homme qui l'année d'après, qui a réussi, on s'est beaucoup écrit, mais pas autant, l'écriture n'aurait pas été la même. C'est l'abandon qui fait que d'un seul coup, tout devient fragile et tout devient fort, tout devient profond et où les choses lâchent.
Alors, par procuration ou pas, consciemment ou pas, vous êtes quand même, d'après lui, entré dans sa tête. Vous avez presque habité son corps, comme un rôle, je ne sais pas. Il vous écrit par texto lors du premier voyage. « Ce que tu m'as écrit m'a sans doute transformé à jamais. Vous avez réussi à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. » Il vous écrit « Je suis en fait très troublé par ce que tu m'as offert. Je vis habituellement seul à bord et j'ai beaucoup de mal à partager ce que je ressens au fond de mes tripes pendant ces longues semaines en mer. Et là, toi, tu vois tout, tu entends tout, tu fais partie du bord, tu comprends tout, tu es là avec moi au quotidien. » Isabelle Autissier, quand vous écrivez aujourd'hui des romans, notamment celui-là, le dernier, Oubliez Clara, est-ce que ça peut remplacer un voyage en mer ?
Non, ça remplace pas. D'ailleurs, je continue à faire des voyages en mer qui sont évidemment indispensables à ma survie. Je passe environ 2 mois, 2 mois et demi par an sur mon bateau. Par contre, ce que j'aime, c'est que à travers l'écriture, d'abord tout ça reprend réalité au fond, parce que c'est extrêmement ancré. Quand on a passé des grands moments en mer, ils sont au fond de vous-même, voilà, pour toujours. Le fait d'écrire, ça permet à tout ça de refaire surface, entre guillemets. Et puis, ça permet de trouver des termes de passage pour essayer d'expliquer aux autres un certain nombre de choses et de partager un certain nombre de choses. Parce que, et c'est ça que je retiens beaucoup de la conversation de Thomas et de Jacques, c'est que on est quand même dans de l'indicible, très souvent. Comment raconter, comment expliquer, comment trouver les mots pour dire ce qu'on ressent quand on est seul ou même quand on est en équipage d'ailleurs, dans cet ailleurs quand même qu'est la mer. C'est pas si facile. Et quand on revient, évidemment, on raconte des histoires, on raconte des choses, mais Mais comment on fait passer par petites touches des, je sais pas, des paysages qui vous procurent une émotion folle, des idées de dingue qui vous viennent à la tête parce que vous êtes toute seule à la barre depuis 4 ou 5 heures de temps. Enfin voilà, tout cette espèce d'ailleurs qui se construit en mer. Voilà, c'est, je trouve que j'essaye aussi à travers l'écriture de donner des sortes d'ouvertures. Sur cet ailleurs.
C'est-à-dire que Jacques Gamblin, sur un bateau, il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit là. Il y a quand même, à un moment, besoin de prendre du recul par rapport à...
Moi, je trouve que c'est indispensable. Et ce qui m'intéresse dans la conversation qu'il avait avec Thomas, comme dans celle que j'essaye d'avoir, moi, à travers mes romans, c'est justement qu'on a deux imaginaires qui se répondent, au fond. Il y a l'imaginaire de celui qui est à terre, bien sûr, qui imagine ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon et donc ce qui se passe sur un bateau et ça paraît très exotique. Mais il y a aussi tout à fait l'imaginaire du marin qui a besoin des autres, qui continue à vivre avec les autres même s'il en est privé. Et donc qui imagine ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, qui imagine ces lieux à terre où il n'est plus. Enfin voilà, et c'est très important et il n'y a pas tellement d'endroits où on a cette force des imaginaires en fait qui se répondent comme ça.
Alors que l'imaginaire de la mer nourrisse l'écriture, c'est sûr. Est-ce que l'écriture nourrit aussi la navigation? Est-ce qu'il y a une discipline dans l'écriture qui peut alimenter votre manière d'être quand vous êtes en mer, Isabelle Autissier?
Alors, je dirais pas tout à fait ça comme ça, parce que la manière d'être en mer, c'est une manière, pour moi en tout cas, de lâcher prise par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, pour pouvoir s'adonner, se donner, je ne sais pas comment le dire, à cet environnement maritime. Et tant qu'on fait pas ça, je pense qu'on navigue pas bien, parce que on est encore crispé sur les il faut faire ci, il faut faire ça, il faut etc. Donc voilà. Donc ça c'est ce que doit faire le marin. Pour moi le rapport à l'écriture il a presque été dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont allumé la flamme dans ma tête quand j'étais petite fille et adolescente etc. Ça a nourri mon envie de navigation et plus je naviguais plus j'avais envie d'en lire sur la mer et de partager justement cet imaginaire, plus j'en rêvais moi-même, voilà, et plus j'allais en mer.
Vous naviguez aujourd'hui régulièrement avec un homme, l'académicien Éric Orsenna, que vous retrouverez d'ailleurs avec Jacques Gamblin pour une rencontre autour des océans. Quel avenir ? Ce sera à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageurs. Sur les liens entre navigation et écriture, lui répond même combat.
Naviguer et écrire, c'est pareil. C'est pareil, pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a pas plus de chemin sur la mer que sur la feuille de papier. C'est pareil. Et moi, quand je prends ma plume, c'est comme quand je hisse la voile. Hein. En avant, je ne sais pas où je vais. Enfin, je sais en gros, j'ai envie de finir le livre, mais par où je vais aller, alors franchement, j'en sais rien. Puis ça va dépendre de ma météo personnelle. Si je suis trop heureux, j'écris pas. Si je suis pas assez heureux, j'écris plus non plus. Donc, il faut le voyer et être obstiné. Si vous voulez, si vous avancez, vous dépassez. Vous vous dépassez vous-même. Si vous restez immobile, vous êtes moins vous-même.
La discussion a reprise pendant qu'Éric Orsenna vous parlait, Jacques Gamblin. Même combat pour vous aussi.
Vous faites le parallèle. L'écriture, oui, je fais un parallèle. Écriture et naviguer, parce que je navigue aussi, mais bon, c'est plus navigation côtière, mais peu importe, on est confronté à des choses imprévisibles. C'est toujours quitter le bord, en fait. C'est. Le moment où le bateau quitte le quai, la concentration se focalise comme ça sur ce qu'il y a à faire avec ce bateau qui est quand même qui devient une maison flottante et qui devient donc un endroit qu'il faut absolument protéger ou qui nous protège et qu'il faut et l'écriture c'est aussi un départ comme vient de le dire Éric Orsenna, on ne sait pas par où on va passer, on se laisse, on prévoit peut-être des choses, des bornes, une destination, un objectif comme ça, mais on ne sait pas de quelle façon, enfin en tout cas moi, je ne sais pas de quelle façon je vais l'atteindre. Et donc il y a une notion de liberté absolument énorme. On peut, voilà, on a la liberté de penser, on a la liberté d'écrire, on a la liberté d'écrire aussi des choses qui ne vont pas rester, qui vont se retrouver à la poubelle, et c'est pas grave. Et c'est très agréable ça de sentir qu'on peut tout construire avec des mots. un imaginaire, certes, mais qui va ensuite être communiqué, et des sensations, des émotions. Et en plus, le temps, la notion de temps, c'est un peu la même chose. Il a passé. Le temps ne passe pas. Et on se rend compte que, enfin, je sais pas, quand on fait, je fais une séance d'écriture comme ça de 4 heures, je regarde ma montre et paf, il a passé. Je n'ai pas vu passer le temps.
Vous êtes hors du temps mathématique, oui, comme vous l'écrivez, c'est vrai. L'un et l'autre. Il y a un autre point commun qui est frappant dans cette correspondance, c'est que vous échangez et en même temps, on sent deux solitudes bien ancrées dans cette pratique, lui de la mer, vous de l'écriture. C'est comme si vous partagez tous les deux une sorte de voyage en solitaire avec des points communs. Vous à terre, lui en mer, la peur de l'échec, la possibilité de vivre ces moments hors du temps, le plaisir aussi dans la contemplation, le goût du défi. Isabelle Autissier, Jacques Gamblin, le mouvement, le silence, la solitude, ce sentiment d'être libre derrière sa table de travail ou sur un voilier. Il y a quand même ces sensations communes, hein, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs.
Oui, j'aime beaucoup ce que dit Eric, mais il a toujours le chic pour trouver les formules. Et je crois, pour rajouter un élément, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Jacques, et pour rajouter un élément, je pense que il y a aussi cet apport extrêmement profond et sincère, je pense, de soi-même par rapport à cette activité. Quand on va en mer, on y va avec tout ce qu'on est, avec ses émotions, ses courages, ses peurs, et vraiment, voilà, on entre en mer avec tout ce qu'on est. Et je pense que dans l'écriture, c'est pareil. On entre en écriture, entre guillemets, avec tout ce qu'on est voilà, avec une vraie sincérité qui va rencontrer ou pas celle des lecteurs, mais en tout cas, je vois pas comment on peut tricher dans une activité comme dans l'autre.
Que soudain, seul, l'un de vos derniers romans, Isabelle Autissier, soit dans la première sélection du Goncourt il y a 4 ans, vous disiez ça m'a rendu extrêmement fière. Il y a quand même une forme de compétition aussi, de dépassement de soi dans l'écriture.
Alors, c'est pas tellement, non, il n'y a pas de compétition. Moi, je me mesure pas à qui que ce soit. Non, ce qui m'avait rendu extrêmement fière, c'est que c'est évidemment un jury d'écrivains et de gens extrêmement prestigieux et attentifs sur évidemment l'écriture et la qualité de l'écriture, et donc voilà, que je sois distinguée par ces gens-là, c'est distingué par ses pairs, je crois que c'est pareil en bateau, plus que, évidemment, je serais très fière de gagner la course, mais quand je sens dans le regard des autres marins que voilà, que quand j'ai commencé à sentir que j'étais entre guillemets prise au sérieux, pour moi c'était presque plus important.
Il y a des expériences de caméléon, comédien et écrivain, navigateur. Écoutez Thomas Coville.
Je ne vis pas avec l'idée d'avoir peur de mourir en mer. De m'être trompé, évidemment. Que ça ne corresponde pas à la vague que j'ai imaginée, presque plus obsédément. Ouais, j'ai peur de ça, d'être... de pas retrouver le son ou l'harmonie ou la résonance ou la vibration que j'ai eue de cette vague qui se lève de très loin là. Et puis après, c'est que collectivement on se soit trompé, ouais, ça c'est une pression, ouais, c'est, et à la fois quand je rentre dans cette atmosphère, je suis tout à la perception, tout dans l'écoute, je suis le moindre cliquetis dans le bateau me dit quelque chose, c'est une polyphonie complète qui résonne dans ma tête et qui met tous mes sens en éveil. Mais c'est aussi ma seule manière de survivre. C'est qu'il faut que je m'adapte à un milieu qui est quand même hostile, à un engin qui est quand même hors norme. Et dans cette dualité ou dans ma capacité d'être un caméléon ou de m'adapter, il faut que je devienne ça. Sinon, je peux pas y arriver. Sinon, je peux pas aller jusqu'au succès ou sinon, je peux pas soit gagner ni même survivre.
Les mots que vous mettez dans cette correspondance, Jacques Gamblin, que vous adressez à Thomas Coville, de votre pratique de la scène, parce que régulièrement, le soir, vous alliez jouer et le lendemain, vous lui écriviez, pour être exactement ceux qu'il emploie pour raconter son vécu sur le bateau aussi.
Oui, parce que, en fait, là aussi, un rapprochement que je peux faire, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose autour de tenter l'impossible. Quand on part en mer, pour un record ou pour une aventure, une expédition, il y a quelque chose de... on ne sait pas, quoi. On tente l'impossible. J'aime bien cette idée. Et écrire, c'est aussi tenter l'impossible. C'est-à-dire, c'est toujours, pour moi, c'est ça qui m'excite dans l'écriture. Et c'est de tenter de trouver les mots qui vont produire la sensation que j'éprouve ou que j'ai éprouvé ou qu'un personnage dont on raconte l'histoire a éprouvé. Et ça, c'est une mission impossible. Je veux dire, c'est comment on raconte quels mots on trouverait pour dire c'est quoi l'orgasme, la jouissance physique. Quel mot on peut trouver pour bon et c'est quel mot on peut trouver c'est devant un paysage. Alors on va prendre une photo, mais non, tout ça est à l'intérieur de soi et on est dans cette incapacité finalement. C'est une mission impossible. Donc on essaie juste on tente de se rapprocher de cette vérité là, de cette sensation là. C'est un acte très organique d'écrire. On est toujours en train de produire, d'essayer de trouver les mots pour raconter une sensation, une émotion. Donc j'aime bien cette notion que dans un ou l'autre cas, le risque de survie en moins évidemment à l'écriture, mais d'essayer de se rapprocher de soi ou de des sensations éprouvées.
Vous l'invitez souvent à faire taire sa colère. Vous croyez sincèrement qu'elle est mauvaise conseillère, la colère?
Oui.
Dans la vie?
Oui.
Pour tout, Isabelle Autissier?
Oui, apparemment, elle fait faire quand même beaucoup de bêtises aux êtres humains, donc on peut dire que oui.
Isabelle Autissier, c'est le cadre de votre nouveau roman, Mourmansk, ville du nord du cercle polaire arctique. Yuri, un russe immigré aux États-Unis, est appelé là-bas pour revenir au chevet de son père mourant, père qui a gardé en tête la disparition de sa propre mère à lui. La grand-mère de Yuri, c'est Clara. Il n'est jamais parvenu à l'oublier. Il a disparu et la question est de savoir ce qui lui est arrivé. C'est aussi une ode à la nature, ce roman, avec beaucoup de descriptions de la nature telle qu'elle est, nature sauvage, mais aussi des dégâts qu'elle a pu subir sous la main de l'homme. La mer monte, la mer continue à monter. Aujourd'hui, vous participez l'un et l'autre à cet engagement qu'il peut y avoir pour le climat, vous à travers votre plume, Jacques Gamblin, quand vous avez notamment décidé d'écrire Mon climat, où vous posiez vos inquiétudes et vos espoirs quant à l'environnement, cet agacement aussi face à notre incapacité à réagir alors que nous savons, vous directement à travers la fondation que vous présidez aujourd'hui, Isabelle Autissier, Vague verte en Europe. Des écologistes qui ont réalisé une percée en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, aux Pays-Bas et en France, arrivée troisième avec 13%. L'Europe, Isabelle Autissier, ça y est, on commence à comprendre que c'est peut-être la bonne échelle, une première bonne échelle pour traiter de cette urgence climatique.
Oui, d'une part, ça c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, hein, puisqu'effectivement c'est une échelle, mais la vraie échelle c'est l'échelle mondiale. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est que on sent que ça diffuse aujourd'hui chez les citoyens ordinaires que nous sommes les uns et les autres, que peut-être sous forme d'inquiétude au départ, l'inquiétude de ce qui va se passer avec le dérèglement climatique, avec l'écroulement de la vie et de la nature et de la biodiversité, et cette envie qu'il se passe quelque chose vraiment là maintenant et qu'on s'y mette vraiment. On a vu les jeunes dans la rue à propos du climat parce que c'est leur vie. On n'est pas sur les générations futures. Et donc moi je pense que tout ça c'est de très bons signes parce que ça veut dire que voilà, on s'y met individuellement bien sûr, mais on interpelle nos politiques et nos gouvernements pour leur dire ok, les discours c'est bien, ça va, maintenant on sait ce qu'il faut faire. Et vous êtes élu pour le faire, tout de suite, maintenant.
Jacques Gamblin.
Oh, je suis de tout bons accords avec Isabelle Autissier. Oui, j'étais heureux de ce score. Et puis que ce score est élu aussi, en effet, grâce à une population assez jeune qui se rend compte que ça a du sens, ça donne du sens. Enfin, on voit trop souvent, beaucoup de gens, je crois, voient beaucoup trop souvent l'écologie comme une punition. C'est pas du tout une punition, c'est le plus bel objectif qu'on peut avoir dans une vie je sais pas, quand on a une fuite dans sa maison, ben on prend l'éponge et la serpillière, quand on a une tache sur le mur, on fait pareil, on la nettoie, on protège l'endroit où on vit, c'est juste naturel, et je crois que c'est pas une Quand la télé est en panne, on prend un livre, on parle à des gens. C'est pas une punition que l'idée de consommer un peu moins parce qu'on va découvrir un autre art de vivre et de s'adapter. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un chemin qui est intéressant, quoi. Et c'est pas, on va pas nous enlever des choses. Si, l'écologie, qu'elle soit économique, etc., qu'elle soit aussi relationnelle, parce qu'on parle toujours de protéger la planète, mais protéger la planète, c'est aussi être en relation avec l'autre. C'est aussi, je sais pas, c'est un art de vivre.
Isabelle Autissier, vous êtes l'une des signataires de la tribune On Board Aquarius. Vous serez tous les deux aussi autour de la table avec Alain Damasio, Laurent Godet, Jean Villard et Yaya Belascri à Saint-Malo, au Festival Étonnant Voyageur, invité à cette rencontre d'SOS Méditerranée. De quoi l'Aquarius est devenu le symbole pour vous aujourd'hui, Isabelle Autissier?
Il est devenu le symbole de notre schizophrénie, au fond, du fait que d'une part on laisse souvent d'ailleurs à l'origine pour des problèmes de climat et de dérèglement des fondamentaux de la vie, on laisse des gens venir se noyer à nos portes et en même temps il y a un vrai mouvement qui se lève et des personnes, des êtres humains disent non, stop, c'est pas possible. Le minimum de devoir qu'on a envers ces gens-là, c'est de leur sauver la vie, bien sûr, puisque ça pourrait être nous. Peut-être un jour ce sera nous d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait? Et puis parce que c'est le minimum du fait qu'on est un être humain et que on se doit une solidarité d'être humain. Et évidemment les marins le savent parce que quand on est en mer, c'est normalement la première des lois. Donc ces gens-là sont en mer, ils sont en Méditerranée. La première des lois, c'est d'aller les chercher et de leur offrir un refuge. Donc c'est cette ambivalence au fond que l'Aquarius, dont l'Aquarius est le signe.
Mais parce que la mer, c'est peut-être la solitude des traversées en solitaire, mais pas pour autant une école de l'égoïsme. Pour vous, Jacques Gamblin, nous, marins, la mer reste une école de la solidarité. C'est la première chose qu'on apprend.
Mais bien sûr, quand il n'y a pas que la mer, enfin, tous les endroits qui sont difficiles. J'étais il y a encore deux jours dans les Pyrénées, je me suis perdu, le brouillard, les nuages, j'ai eu la trouille de ma vie et j'étais bien content d'être aidé par quelqu'un qui passe.
Merci pour cette rencontre à tous les deux.
Merci
Isabelle Autissier. Oubliez Clara, votre roman vient de paraître chez Stock. Jacques Gamblin et Thomas Coville, Je parle à un homme qui ne tient pas en place, apparu aux éditions des Équateurs. On vous retrouvera donc tous les deux à Saint-Malo du 8 au 10 juin pour le festival Étonnant Voyageur avec plein d'autres belles rencontres au programme.